Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit son enquête sur le terrorisme, pourquoi les djihadistes. Et après avoir vu le contexte général de nos sociétés, je vous propose de nous pencher plus ce soir sur la psychologie du djihadisme avec Thierry Lamotte, psychologue clinicien. Il est tentant de chercher les racines de la radicalisation, comme on le fait souvent aujourd'hui, dans la psychologie d'un adolescent. D'ailleurs, ils ne sont pas tous adolescents. On recherche donc dans un parcours de vie les raisons de l'engagement, de l'embrigadement. Au risque d'exonérer un peu vite la part qui revient à la société, non pas pour accuser la société, mais pour comprendre que si le djihadisme est un symptôme individuel, il est également le symptôme d'une époque, les deux étant d'ailleurs indissociables. Et pour approfondir ce lien mystérieux mais essentiel entre la société et la psychologie individuelle, la conversation de ce soir se tiendra avec Thierry Lamotte, qui est psychologue clinicien, qui a travaillé sur plusieurs terrains, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, L'envers obscène de la modernité de la scientologie à Daesh, qui a été publié en 2017, et puis qui va être publié sous peu, La farce ou la condition humaine post-tragique, une clinique psychanalytique du lien social libanais. Bonsoir Thierry Lamotte.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, commençons par le commencement. Commençons par l'embrigadement. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, de quelle manière devient-on djihadiste?
Alors, c'est une question qui est très complexe. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment les choses se sont enchaînées depuis quelques années, depuis que le djihadisme est devenu un phénomène de société et médiatique. Il y a eu une première salve d'analyse, notamment qu'on doit au CPDSI, qui était animé par Dunia Bouzard, qui a proposé un premier modèle d'analyse du djihadisme et donc des éléments de radicalisation, à partir d'une étude, ou en tout cas à partir du paradigme de la manipulation mentale, oui, qui est à peu près le paradigme qui permet de comprendre et d'analyser les phénomènes sectaires et donc maintenant le phénomène de radicalisation, depuis les années 70.
L'emprise.
La question de l'emprise mentale.
C'est ça.
De la manipulation mentale, qui a été lancée, mis en vogue dans les années 70, qui s'est perpétué durant les années 80 et les années 90, qui s'était un peu estompé au début des années 2000 et qui a ressurgi donc à la faveur des phénomènes de radicalisation.
Qu'on est allé rechercher en quelque sorte. Vous avez travaillé sur la scientologie beaucoup, Thierry Lamotte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'apparenté entre l'embrigadement sectaire et le recrutement djihadiste?
Alors il me semble que oui, mais il faudrait pas se tromper d'angle d'analyse. Et donc pour en revenir à cette question de manipulation mentale, le paradigme lui-même qui est en vogue depuis les années 70 a subi, me semble-t-il, un changement durant les années 90 qui mérite d'être analysé. En l'occurrence, j'ai un peu travaillé dessus. C'est pour ça que j'étais surpris de le voir ressurgir dernièrement, là, quand les phénomènes de radicalisation sont devenus épidémiques à partir des années 2010. Mais dans les années 90, là où autrefois on conservait, lorsqu'on analysait les choses en termes d'emprise mentale ou de manipulation mentale, qui est le terme originaire, là où on analysait les choses en termes de manipulation mentale, toujours en gardant en vue des techniques de lavage de cerveau, hein, c'était le terme originaire. Depuis les années 90, quelque chose a changé dans la façon d'analyser le phénomène, et j'ai essayé de décrire d'ailleurs dans un travail récent comment l'apparition, en France en tout cas, de la figure du pervers narcissique a permis de réinterpréter tous les phénomènes sectaires, les phénomènes de harcèlement au travail, à partir d'un nouveau paradigme qui était celui...
Et alors le pervers narcissique, disons, on peut en dire un mot avant de continuer sur nos djihadistes, parce que c'est un terme qui est très très à la mode et qui a été mis sur le marché des idées, je peux l'exprimer ainsi, par Madame Récamier, assez tardivement, assez récemment exactement.
C'est relativement récent, le terme lui-même apparaît dans les années 90 et il a posé en fait une espèce d'étalon qui a permis à à tous les cliniciens des années 90 de penser des phénomènes qui, à mon sens, étaient des phénomènes nouveaux, en l'occurrence. Les phénomènes d'un sectarisme qui échappait à toute analyse habituelle, le phénomène du harcèlement au travail qui prenait une nouvelle tournure dans les années 90, et en l'occurrence, là, depuis les années 2010, la question de la radicalisation. Donc pour en revenir à Madame Bouzard, le travail qu'elle a fait, qui était un travail important, parce qu'il fallait, quand le phénomène a débuté et est devenu épidémique, il fallait bien une première approche qui permet de poser un cadre et de le penser. Sauf que donc, elle a ravivé cette question du paradigme de la manipulation mentale, et elle a engagé les choses, me semble-t-il en tout cas, sur de mauvaises voies.
Ben oui, parce que c'est plus comme ça que ça se passe. En réalité, entre la fin des années 2000 et aujourd'hui, il y a l'apparition des réseaux sociaux, et puis il y a l'apparition, vous allez nous le dire, d'une nouvelle personnalité, d'un nouveau rapport à soi, une nouvelle subjectivité, aurait dit Foucault, liée aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça se passe le recrutement aujourd'hui d'un djihadiste, Thierry Lamothe?
Alors quelque chose de neuf est apparu qui me semble être à mettre en lien avec les mutations que vivent de toute façon nos sociétés. Si on reprend Kepel, Gilles Kepel propose qu'il y ait eu en gros trois grands mouvements du djihad. Un premier mouvement dans les années 80 qui se termine à peu près en 95 avec la mort de Khaled Kelkal. Mmh. Un deuxième mouvement qui s'est fait quasiment entièrement sous l'égide tutélaire d'Al-Qaïda, oui, qui se termine à peu près aux alentours des années 2005. Et à partir de 2005, quelque chose s'est mis à bouillonner un peu à bas bruit, que personne n'a vu apparaître jusqu'au moment où Mohamed Merah est passé à l'acte en 2012. Et donc, de ces trois mouvements, il y a un premier grand mouvement qui articulait encore dans la pensée du djihad les perspectives de lutte des classes issues des théories marxistes habituelles, c'est-à-dire qu'il s'agissait de prendre les armes, d'aller en Afghanistan et de sauver les frères oppressés par les grandes puissances. Donc ça, c'est la première grande vague du djihad des années 80.
Et qui a été couronnée de succès, c'est très important, c'est qu'après, ils sont rentrés finalement couverts de gloire, en se disant, ça a marché. Et je crois que c'est important pour comprendre le mécanisme de radicalisation.
Exactement.
C'est qu'on dit, oui, la preuve que Dieu est avec nous, c'est qu'on a réussi à mettre les Russes dehors.
Ça a été couronné de succès, et en cours de route, pendant que cette première vague était encore sur cette lancée qui était clairement politico-religieuse, il s'est produit la chute du mur de Berlin. Or, à partir de 1989, la puissance performative des doctrines issues du marxisme a pris un coup dans l'aile, s'est beaucoup essoufflé. Sauf que la nature ayant horreur du vide, là où existaient encore ces doctrines qui étaient pourvoyeuses de sens pour toute une part de la population, s'est essoufflée. Là où ces doctrines se sont essoufflées, sont venues les remplacer quelque part des doctrines explicatives du monde, mais qui articulaient plutôt des éléments complotistes à des éléments de l'islam et des thèmes de l'apocalypse.
C'est là où on retrouve notre pervers narcissique qui est lié au complotisme et qui est lié. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, d'ailleurs, Thierry Lamothe, parce que vous montrez comment le thème du harcèlement, le thème de se sentir persécuté par l'autre, par tous les autres, et notamment par ses petits chefs, par le voisin, par son partenaire amoureux, c'est bien le symptôme, dites-vous, de la dégradation contemporaine de l'instance du père symbolique. On retrouve toujours cette idée-là, quoi, qui peut être aussi un récit, d'ailleurs, hein. Tout cela œuvre dans le sens d'une paranoïsation imaginaire du lien social. C'est ça que vous dites finalement. Et le surcroît de transparence que nos sociétés ont connu et la manière dont elles valorisent la transparence pousse à ce complotisme très paradoxalement.
Oui, exactement. C'est-à-dire que immédiatement, lorsque c'est essoufflé cette première vague du djihadisme, à partir du moment, dans le milieu des années 90, où Al-Qaïda a dominé complètement la sphère du djihad, sont venus s'articuler aux éléments traditionnellement politico-religieux du discours djihadiste, des éléments issus de la sphère complotiste. Alors ce qui est intéressant malgré tout avec Al-Qaïda, c'est que pendant tous les 10 ans qu'a duré son règne sans partage, nous avions affaire à une entité qui était malgré tout encore structurée de façon verticale.
Et très sélective. Dont le recrutement était très sélectif. Où il y avait un véritable recrutement et il n'entrait pas qui veut.
Le recrutement était très sélectif. La doctrine était produite par le haut de la pyramide du pouvoir et elle glissait de strate en strate jusqu'à venir se répandre dans les quartiers par les mosquées, par les figures d'autorité qui étaient encore les imams dans les mosquées de quartier.
Il y a toujours des pères symboliques.
Il y avait des pères symboliques dans les années 90. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'explique encore une fois très bien Gilles Kepel. À ce moment-là, les services de renseignement se sont fait leurs armes pour surveiller les mosquées dans les quartiers. Et quelque chose d'efficace au niveau des techniques de surveillance a pu se constater, puisqu'au terme de ces 10 ans, la France a vécu 12 ans, ou 17 ans, je ne sais plus trop combien, plus d'une dizaine d'années en tout cas, avec une sanctuarisation du territoire français. Aucun acte terroriste après Khaled Kelkal n'a finalement abouti. Ils ont réussi à démanteler tous les réseaux pendant toute cette période, jusqu'en 2005.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Daesh et quelle rupture s'opère? Et Daesh, et il faut ajouter les réseaux sociaux et les jeux vidéo et tous ces moyens de communication qui fait qu'aujourd'hui, je prends cette expression, Thierry Lamotte, votre expression, il n'y a plus de chercheurs de tête.
Le chercheur de tête, c'est Dounia Bouzard, justement, qui emploie le terme et qui continue à penser en 2014 qu'elle a saisi. Donc, ce qui s'est passé, je reviens à ce qui s'est passé en 2005. À partir de 2005, Al-Souri, qui est l'idéologue un peu de ce qui va devenir Daesh, produit les nouvelles modalités du djihad. Il sent venir quelque chose de neuf avec une logique que Kepel, encore une fois, dira réticulaire. C'est-à-dire que là où autrefois on avait des figures d'autorité qui portaient le message jusque dans les cités, à partir de 2005, la chose passe sous les radars, sous tous les systèmes de surveillance, et ça se produit au moment de l'explosion des réseaux sociaux. Où là, à partir de 2005, beaucoup de basculements dans l'islamisme se produisent sur Internet.
Et donc, sur Internet, ça veut dire qu'on est plus dans une rencontre de l'offre et de la demande. Et c'est moins un recrutement personnalisé, ce modèle du chercheur de tête, que le fait qu'il y a une aspiration, il y a une offre de vivre des choses enthousiasmantes. Et parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, à vous lire, Thierry Lamotte, d'avoir une véritable aventure, la seule peut-être qui reste à un certain nombre de gens. Et vous insistez sur le fait que ce qui est intéressant quand on regarde les réseaux sociaux, vous prenez un cas par exemple de jeunes qui partent pour des aspirations humanitaires. Alors, on a tendance à dire que c'est nécessairement bidon, les aspirations humanitaires. Mais non, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça parce que j'ai été recruté dans la première vague du plan de lutte antiterroriste à l'administration pénitentiaire. Et là, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui revenaient de Syrie et qui étaient suivis par des SPIP. Et à ce moment-là, tous, très rapidement, quand ils revenaient de Syrie, se sont mis à adopter le même discours qui est un peu calcifié dans une espèce de modèle général, qui devient suspect à force d'être répété. Oui. Donc tous disaient, non, j'étais allé là-bas pour faire de l'humanitaire, c'est pas du tout ce que vous croyez, je suis allé là-bas pour défendre les frères oppressés par Bachar el-Assad. Or, à les entendre sur la durée, ce n'est pas ce qui apparaît du tout, notamment au niveau des sites qu'ils consultent sur Internet. Il s'agit moins d'aspiration humanitaire, contrairement à ce qui a été, encore une fois, la première base d'analyse de ces phénomènes, au moment où les jeunes ont commencé à partir en masse, à partir de 2013 en Syrie. La première idée était de dire qu'ils y allaient sur la base d'un idéal éthique.
Parce que le recrutement sur les réseaux sociaux se fait pas du tout de la même manière. L'écran, l'image, l'accès à ceux qui sont partis, par exemple, est tout à fait différent du donneur d'ordre d'une organisation clandestine. Il y a quelque chose qui croise le narcissisme contemporain, un narcissisme fragile. C'est-à-dire, je pars faire de l'humanitaire au Burkina Faso, c'est un exemple que vous prenez, je me prends en photo à côté du projet de développement que je fais, je pars en Syrie, je me prends en photo de la même manière. C'est la même mise en scène de soi, Thierry Lamotte, dans les deux cas. Et dites-vous, c'est le meilleur argument de recrutement pour Daesh.
Oui, dans un rapport publié en 2015, donc parmi les arguments qui prouveraient que les jeunes s'engagent sur la base d'un idéal humanitaire ou éthique. Il y a cette phrase d'une jeune fille qui met sur sa page Facebook « Moi au Burkina Faso ». Or, ce qu'on peut poser comme question, c'est quelle cause est-ce qu'il s'agit de faire valoir pour elle ? Est-ce que c'est la cause du Burkina Faso ? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle se met sur le devant de la scène ? Ou le moi, son propre moi rehaussé avec la cause digne du Burkina Faso. Donc effectivement, il me semble que quelque chose a changé sur les modalités de l'engagement, là où dans les années 80, les jeunes djihadistes occidentaux s'engageaient réellement en Afghanistan sur la base de quelques idéaux politiques, ce qui se produit depuis 2005 a pris une autre tournure.
Est-ce que c'est pas le génie de Daesh précisément d'avoir compris formidablement son époque ? Très bien, très vite, beaucoup mieux que les autorités, et donc avoir compris que c'est par l'image et au-delà de l'image, c'est par cet être au monde, c'est un peu pédant, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'il allait pouvoir recruter de manière réticulaire et de manière par contagion, de manière virale, comme on dit aujourd'hui, Thierry Lamothe.
Ce qui a été le génie de Daesh, ça a été non seulement de mettre en place une propagande fondée sur les imageries qui organise la vie de ces jeunes, que ce soit les jeux vidéo ou les films de science-fiction, de fantastique et les films d'horreur. Donc ça, c'est d'une part au niveau de la propagande, ils ont saisi exactement quel langage parler aux plus jeunes, mais surtout ils ont compris que finalement les meilleurs ambassadeurs du djihad, une fois arrivés sur place, ce sont les jeunes eux-mêmes grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que le jeune qui se prend en photo avec une Kalachnikov au bord d'une piscine dans une villa abandonnée en Syrie, ce jeune-là fait beaucoup plus d'adeptes, en tout cas suscite beaucoup plus de désirs de départ que n'importe quelle propagande écrite ou mise en scène par des films.
Ou que n'importe quelle scène d'horreur que pourrait mettre aussi Daesh. L'horreur, c'est pas à destination des recrues potentielles.
Alors, bizarrement, oui.
Ah bon ?
Il me semble que quelque chose fonctionne aussi au niveau de la fascination qu'exerce cette possibilité-là de suspension de la loi. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas dit tout de suite, c'est au fil des entretiens que vient sur le devant de la parole le fait que beaucoup de ces jeunes aient parcouru des sites de Daesh, du groupe lui-même, dans lesquels ils filmaient des décapitations, des gens qui étaient noyés et filmés en direct, toutes ces images d'horreur, malgré tout, exerçaient une certaine fascination qui mérite là aussi d'être interrogée. Parce que lorsqu'on dit que ces jeunes partaient là-bas uniquement dans la vocation de réhabiliter la loi islamique et de vivre entièrement sous la coupe de la loi islamique, quelque chose d'autre apparaît dans ces images qui relèverait plutôt d'une possibilité de suspension des interdits fondateurs.
C'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de Daesh, c'est peut-être ça la grande nouveauté, c'est-à-dire cette incroyable ambiguïté, on va y revenir quand on regardera plus précisément les symptômes, mais c'est ce rapport à la loi qui commence d'ailleurs par le rapport au prophète lui-même, qui est un rapport des intermédiaires, qui n'est plus même tellement médié par des livres ou par le livre saint, qui est quelque chose de beaucoup plus, comme si il y avait une destruction de la loi, une destruction paradoxale de la loi, et de la loi occidentale, ça c'est sûr, mais également de toute loi, vivre sans loi à Daesh.
Ça ressemble beaucoup à ça, parce que ce qui s'est produit pendant les deux premières vagues du djihad, où il y avait quand même des textes qui étaient interprétés de façon à ce que ces textes fassent autorité sur les personnes qui s'y soumettent, il y avait quelque chose de l'ordre du traitement très classiquement étudié par la psychanalyse depuis Freud, à savoir que finalement la vocation du discours religieux est une vocation qui vise à traiter la pulsion, à la réordonner, à la juguler, à la contrôler, à la discipliner. Donc ça, les deux premières vagues du djihad portaient encore en elles cette vocation-là de l'usage du discours religieux. Ce qu'on voit apparaître à partir de Daesh, c'est un autre usage du discours religieux. On a vu sur place des interprètes qui ouvraient des sites sur YouTube, des interprètes du texte qui interprétaient le texte coranique ou l'hadith du prophète de façon à justifier toutes les horreurs de Daesh. C'est-à-dire que là où autrefois on se soumettait à l'autorité du texte, là du jour au lendemain on a eu quand même toute une série de personnes qui sont arrivées sur place et qui se sont mis à interpréter le texte de façon à le détourner de sa vocation première.
Est-ce que c'est ça qu'on n'a pas compris ? C'est peut-être ça, Thierry Lamothe, qu'on n'a pas compris ici, parce que pour nous la religion, et je m'adresse aux psychanalystes que vous êtes, il y a un renoncement pulsionnel et c'est un renoncement pulsionnel. Freud Freud le dit à plusieurs endroits, mais dans la civilisation, c'est-à-dire que c'est un renoncement pulsionnel qui est indispensable à la vie en commun. Et là, c'est le contraire. Là, ça ne fonctionne plus comme ça.
C'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Alors, vous me demandiez tout à l'heure si entre ces phénomènes de radicalisation, voire Daesh lui-même, et les phénomènes sectaires que j'ai étudiés, en l'occurrence la scientologie, si on pouvait faire un pont. Je pense qu'il y en a un, notamment sur cette base-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait de toute façon, c'était aussi ce que disaient les philosophes des Lumières, c'est qu'il faut céder quelque chose, il faut céder quelque chose de sa puissance, pour le dire avec Rousseau, ou de sa jouissance, ou de sa pulsion, pour le dire avec Freud. Et c'est dans la mesure où on acceptait de céder cette part-là que quelque chose de collectif peut se mettre en place, dans la mesure où, au lieu même où ça me manque, on va élever une instance symbolique qui va se porter garante des interdits qui fondent le groupe. Donc ça c'est le socle habituel de l'analyse des groupes,
oui.
Le modèle classique du lien social. Sauf que ce qui se passe avec la scientologie, et ce qui se passe aussi, me semble-t-il, dans certains groupes islamistes, c'est qu'il n'est plus requis de perdre, parce qu'au contraire, ils se rencontrent sur la base d'une jouissance partagée. Par exemple, les adeptes de la scientologie, ce qui les tient ensemble, ce n'est pas qu'ils aient accepté de renoncer à une part de leur pulsion, mais plutôt le fait qu'ils partagent ensemble la consommation en commun des objets produits par la secte.
Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica, marato. E volta do mundo, camarada. E mundo dá volta, camarada. Antes longe era distante, perto só quando tava, quando muito ali defronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes tem de casa, camará, e volta do mundo, camará.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Thierry Lamotte pour parler des djihadistes et de leur motivation. Et Thierry Lamotte qui a choisi de nous faire entendre cette air de Gilberto Gil.
Antenna Parabolica Mara, pour le dire en français, qui est un morceau magnifique qu'il a composé en 1992. Et là, c'est un enregistrement de 1994 où il chante à ce moment-là la nécessité d'une ouverture au moment d'ouverture du Brésil sur le monde après la dictature, quelques années après la dictature. Il rappelle l'intrication, le métissage du Brésil.
Oui, alors l'ouverture sur le monde, c'est pas précisément ce que pratiquent nos adeptes de Daesh, ou au contraire, ils sont dans une communauté fermée. Ce qui vous a frappé aussi, c'est donc ce lien avec une société où on a parlé de l'effondrement du père symbolique Thierry Lamotte. Vous avez fait le rapprochement avec des mouvements millénaristes, notamment qui ont été réguliers en France entre le 11e et le 14e siècle. Il y a beaucoup de mouvements millénaristes et vous ressentez une certaine parenté dans la détestation des livres, dans la volonté de se libérer de la loi, parce que précisément on pourrait dire aujourd'hui la collapsologie, c'est-à-dire la perspective de l'effondrement, la perspective du changement de monde justifiait qu'on se libérera de tout cela.
Tout à fait, Antoine Garapon. Je me suis intéressé, lorsque je me suis penché sur le phénomène Daesh, Je lisais à ce moment-là, je relisais en fait un vieil ouvrage de Norman Cohn sur les fanatiques de l'Apocalypse, où il recense dans ce livre les mouvements, les levées millénaristes du peuple entre le XIe siècle et le XIVe siècle. Alors lui n'arrête arbitrairement, me semble-t-il, la période des mouvements millénaristes au XIVe siècle. En réalité, il y en a eu régulièrement, hein, jusqu'au XIXe siècle au Brésil. Il y a eu le mouvement des Canudos, qui est aussi un mouvement typiquement millénariste. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'il nous explique, Norman Cohn, c'est qu'il il situe les choses dans un moment de transition. Hein, voilà, c'est au moment où quelque chose se produit dans la culture qu'il a repéré qu'il y a eu des levées comme ça du peuple en quête du millénium, donc du paradis sur terre. Or, son analyse, ce qu'il nous dit du contexte dans lequel se sont produits ces mouvements millénaristes, ce sont des contextes, dit-il, où l'économie a pris un certain essor. C'est-à-dire que la proto-industrie médiévale, lorsque la logique marchande s'imposait dans certaines régions, le lien social traditionnel qui tenait ensemble les serfs et leurs seigneurs dans des systèmes d'entraide réciproque s'effondrait, la démographie était bouleversée.
Et puis beaucoup de gens laissés sur le carreau.
Et beaucoup toute une part de la population, une masse de cette population qui ne trouvait plus sa place dans les liens sociaux traditionnels, venait échouer aux abords des villes proto-industrielles de ce moment-là.
Oui. Et ce qui vous amène à lire un autre auteur, non pas Norman Cohn, mais Anna Arendt, pour comprendre, faire le lien après l'effondrement du père symbolique, le lien avec une sorte d'isolement ou de désolation, je ne sais pas comment dire, qui est un thème qui a beaucoup intéressé Anna Arendt dans les racines du totalitarisme, Thierry Lamotte.
Parce que c'est effectivement déjà dans ces premiers mouvements millénaristes analysés par Norman Cohn, on avait affaire à une masse de personnes, d'individus qui ne trouvaient plus leur place, qui étaient déracinés. C'était des gens qui ne trouvaient plus de ils étaient désolés, pour le dire avec Anna Arendt. Ils avaient perdu leur sol et ils venaient échouer donc aux abords de ces villes industrielles.
C'est aussi un peu l'exil, non, d'être désolé.
C'est une forme d'exil forcé, comme ça, mais un exil sans perspective, un exil qui est vécu complètement passivement. Et ce que dit Anna Arendt lorsqu'elle analyse le totalitarisme, c'est que pour que se mette en place un système totalitaire, un mouvement totalitaire, il faut qu'il soit nourri par une masse de gens qui n'ont plus de sol, qui ont perdu tout enracinement, toute place dans la généalogie, toute place dans un système social, et qui là, dès lors, sont, comme elle dit, c'est pas elle qui le dit, elle parle de loneliness, c'est le traducteur qui emploie le mot désolé, en fait.
Oui, c'est ça, oui. Alors, elle dit aussi, c'est un terreau qui est favorable à l'idéologie, c'est-à-dire, pour Anna Arendt, elle est très préoccupée, elle se centre juste dans l'après-guerre sur les raisons pour lesquelles l'Europe s'effondrait à ce point-là, et notamment l'Allemagne d'où elle veut. Et elle dit, dans la pensée idéologique, il y a quelque chose qui la frappe, c'est la capacité de s'affranchir de toute expérience. On n'est plus informé par le monde vécu. Et c'est la logique d'une idée qui va prendre la place de ce qui devrait être un rapport au monde, un rapport par lequel on continue d'être informé par le monde, Thierry Lamotte.
C'est ça, Antoine Garapon. Elle ramène en fait son analyse à la question strictement de l'idéologie, dont elle nous dit que l'idéologie, c'est exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est la logique d'une idée. Et alors, comme elle explique dans son texte, le principe de l'idéologie est avant tout de s'emparer de l'histoire. On part d'une prémisse qu'on prend pour vérité absolue et on va déduire logiquement de cette prémisse toutes les conséquences, quelquefois jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Et elle dit que ce qui est effrayant avec le principe même de la dialectique lorsqu'elle se situe dans un contexte comme celui de l'Allemagne au moment du nazisme, c'est que finalement, lorsqu'elle s'attache à des personnes désolées, à un peuple qui n'a plus d'enracinement, qui n'est plus relié par rien, lorsque le lien social est dissous au point que chacun dans ce peuple-là perde non seulement son relation à l'autre, mais sa relation au monde et à lui-même, dans ce contexte-là, elle explique que tout ce qui reste à ces personnes-là, c'est de s'attacher, de s'engager dans les systèmes logiques qui n'ont plus besoin de l'expérience pour fonctionner, qui n'ont pas besoin de l'autre.
Et ça, ça vous fait penser, Thierry Lamothe, aux djihadistes que vous rencontrez, dans lesquels vous retrouvez cette prise de distance à l'égard du monde vécu et à l'égard de l'expérience, qui est préparée par les réseaux sociaux, qui est préparée aussi par les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une virtualisation de son rapport au monde et qui va un peu en appeler une autre qui sera le décrochage djihadiste.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à une population qui, de toute façon, vit dans l'élément virtuel. C'est-à-dire un peu coupé le lien à l'expérience vécue, à l'expérience avec l'autre, à l'expérience dans la cité, l'expérience politique elle-même, du lien avec ses congénères. Donc on a affaire à une population particulière.
Mais pourtant, il y a pas mal de délinquants ou d'anciens délinquants parmi ces garçons-là. C'est quand même une expérience de la loi, la délinquance. C'est l'expérience de rencontrer les institutions. Comment ils agencent ça?
Oui, c'est vrai. C'est une expérience qui reste périphérique par rapport à la loi. C'est une expérience
c'est ça,
qui est à cheval,
c'est
qui part entre la
tout
loi et autre chose. Donc il reste malgré tout dans cette espèce de limite entre le lien social, entre la cité et cette autre marge. Et ils ne tiennent finalement, ils ne dérivent pas complètement que par le biais de ces réseaux organisés de la petite délinquance. Ce qui m'avait surpris, moi, quand j'ai rencontré certains de ces jeunes qui revenaient de Syrie, c'est l'incapacité dans laquelle ils étaient dans un premier temps de formuler quelque chose de ce qui les avait portés en Syrie. Non seulement ils étaient incapables de dire pourquoi et comment quasiment ils y étaient allés, pourquoi en tout cas, mais ils étaient dans l'incapacité d'expliquer dans quelle mesure, qu'est-ce qui avait fait qu'ils étaient revenus, par exemple. Donc, je vous parle des premiers,
c'est ça, bien sûr,
de 2014-2015. Donc il y avait une espèce d'évanescence dans la présence qui m'a laissé pensif. Il n'adhérait pas nécessairement à la substance de l'idéologie, c'est autre chose. C'était la démarche logique elle-même qui les avait, comme le dit Hannah Arendt, c'était la démarche logique, logico-déductive, qui les avait menés pas à pas jusqu'à devoir partir.
C'est ça. Et alors... Alors, c'est ce qui est difficile, c'est qu'ils devraient pouvoir parler de leur expérience en Syrie. Or, je constate, je crois que vous constatez, ou tout le monde constate, qu'ils n'en disent rien. On a très peu de témoignages directs. Alors, pour des raisons probablement de protection judiciaire, ils veulent pas s'exposer. Mais c'est plus profond que ça. Est-ce qu'ils sont capables de raconter quelque chose de ce qui s'est passé en Syrie, Thierry Lamothe?
Alors Antoine Garapon, une partie d'entre eux effectivement ne nous dit pas ce qui s'est passé là-bas par des mesures de protection.
Bien sûr, voilà, ça c'est évident.
Mais une part d'entre eux malgré tout, et notamment je pense à certains jeunes que j'ai rencontrés à leur retour de Syrie et qui eux n'étaient pas allés sur les foyers de guerre. Ils étaient restés en périphérie et ils ont réussi à m'expliquer le grand vide que c'était. C'est-à-dire qu'on les amenait.
Ils racontent le vide.
Ils racontent le vide. Alors il faut du temps pour raconter le vide.
C'est
pour ça qu'ils ont
sûr.
Besoin de quelques mois, quelquefois pour le dire. Et donc ils passaient d'une villa à l'autre, ils passaient leur journée à tourner en rond, à passer le balai ou à faire la vaisselle. Et c'est ce grand vide là qu'il fallait mettre en mots. Mais malgré tout, au-delà du vide qu'ils ont vécu sur place, la cause du départ restait toujours énigmatique.
Mais
pourquoi êtes-vous parti?
Alors, on pourrait imaginer, là je m'adresse bien sûr aux psychologues, c'est qu'on part pour se soigner, on part pour essayer de sortir de sortir d'une mauvaise vie ou d'une vie d'infidèle, d'impie. Et on part pour s'éloigner, pour quitter quelque chose avant de rejoindre quelque chose d'autre, non?
Oui, c'est vrai. On part pour quitter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un des éléments. Yana King, l'historien, s'est intéressé aux maladies transitoires. Donc, il avait constaté que des maladies apparaissent dans l'histoire de la médecine et surtout de la psychiatrie et disparaissent quasiment aussi vite. Et il se demandait, mais qu'est-ce qui fait
la grande hystérie de Charcot, par exemple,
qui était un effet asilaire, qui est né et qui est morte avec Charcot. Donc voilà, ce type de phénomène où les fous voyageurs, comme il les appelait, comme on les appelait à l'époque, c'est fou. Qui revenait quelques mois plus tard, qui disparaissait, et qui revenait quelques mois, voire quelques années plus tard, qui avait parcouru des milliers de kilomètres, et qui disait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais perdu la tête. Donc il y a eu une épidémie de fous voyageurs à la fin du 19e
d'absence
siècle.
D'absence à soi, on retrouve
d'absence
cette idée d'absence à soi. Quoi.
Ils partent, ils ne savent pas où ils vont, ils vivent pendant des années quelquefois, et quand ils reviennent, ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils étaient partis. Donc ça, c'était les fous voyageurs. Certains jeunes pourraient relever de cette folie du voyage. Mais Yana King s'était demandé quels sont les éléments culturels qui font que la folie peut prendre certaines formes à des époques particulières.
C'est ça.
Donc en l'occurrence, il y a eu les fous voyageurs à l'époque, et il y a eu aussi les modalités de la personnalité multiple, et là, depuis quelques années, nous avons affaire à cette vague de radicalisation dans laquelle des jeunes partent en Syrie et reviennent. Quel est le contexte culturel qui favorise ça? Donc, parmi les éléments qui, pour Yana King, étaient des éléments déterminants, il y avait le désir de voyage. Pour lui, ce qui favorise le fait qu'une société produise une forme de folie, cette forme de folie doit répondre aussi au désir de voyage, entre autres.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, dans le départ en Syrie, tout n'est pas idéologique, tout n'est pas religieux, il y a aussi le désir de voir du pays. Ce qui est très frappant, d'ailleurs, dans beaucoup de biographies de gens qui reviennent, ils ont fait des voyages absolument invraisemblables. Ils ont voyagé dans des conditions, ils ont appris l'arabe, etc. C'est pour des jeunes convertis, par exemple, ils sont pas déçus en termes de voyage.
Ils ont vu du pays, ils ont vécu des événements exceptionnels, quand même. C'est la grande aventure, là. Pas pour tous, hein, je vous dis, beaucoup d'entre eux, finalement, sont restés très périphériques à ce qui se passait. Mais pour une partie d'entre eux, ils ont vécu une aventure.
Est-ce qu'il y a des malades mentaux parmi eux, Thierry?
Il y a un tout petit pourcentage de malades mentaux, de psychotiques, notamment de schizophrènes. Un tout petit pourcentage. C'est pas du tout l'essentiel.
Et alors, il y a des garçons, pas des garçons, il y a des garçons et des filles, et des familles parfois, mais elles partent parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Elles sont pas bien là où elles sont.
A priori, des études et des recherches qu'on a menées depuis ces dernières années, il semblerait effectivement que la radicalisation, l'adoption de ce type de discours-là vienne solutionner une impasse subjective. C'est-à-dire que lorsque se présente quelque chose de l'ordre du conflit psychique, des jeunes ou des moins jeunes, hein, de toute façon, des adultes, des pères de famille, peuvent aussi tenter de bricoler une solution pour tenir de nouveau en adoptant des éléments du discours radicalisé.
C'est ça. C'est un symptôme qui vient soigner quelque chose.
C'est un symptôme qui vient soigner quelque chose et qui répond de toute façon à l'offre actuelle de ce qui est la forme idéale de la révolte. Quand on est révolté et qu'on est jeune maintenant, ou en tout cas jusqu'à maintenant, la forme idéale pour l'exprimer, c'est quand même d'endosser la vêture de l'islamisme.
Bien sûr, parce que l'islamisme vient l'idéologie, pour reprendre le terme que vous prenez vous-même à Hannah Arendt, elle se sert du discours islamiste pour domestiquer la pulsion, pour encadrer la pulsion. De manière paradoxale, d'ailleurs.
Une partie d'entre eux. Oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui se servaient du discours religieux de façon quasiment strictement freudienne. C'est-à-dire qu'on rentre complètement dans le canon freudien. Strictement freudienne, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le discours religieux comme ce que Freud appelait la névrose obsessionnelle universelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient adopté tous les rituels de la religion, du djihad ou de l'islam, ou peu importe laquelle d'ailleurs, et qu'ils respectaient tous les canons du rituel, à partir de là, ils rentraient dans un système qui permettait de traiter la pulsion et de la discipline.
Mais ce qui est très intéressant, Thierry Lamotte, je trouve cette idée très féconde, parce que ce que montre Freud, sauf erreur, c'est que les rituels obsessionnels, c'est une manière de se protéger de pulsions, tout en les accomplissant, tout en les satisfaisant. Et c'est assez convaincant pour ce qu'on voit chez nos djihadistes, c'est-à-dire qu'ils sont, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas chez eux. Pour nous, la religion, c'est de la restriction, c'est de la retenue, c'est un ascèse. Alors que pour eux, il y a une manière de domestiquer les pulsions, mais en même temps de les réaliser par une violence extrême, par une hyper sexualisation de la vie, hein, qui est quand même quelque chose qui frappe beaucoup aussi par le fait de pouvoir continuer de piller, de voler. Donc c'est très très surprenant, et la névrose obsessionnelle pourrait expliquer cette ambivalence de on contrôle en réalisant, en quelque sorte.
C'est le principe de la pulsion telle que Freud, justement, l'a proposé, et qui n'est pas du tout la même conception que celle de la médecine. En médecine, le symptôme, c'est la maladie, c'est directement la maladie. Freud indique que le symptôme n'est pas la maladie, mais est déjà une tentative de solution apportée par le sujet à la maladie. C'est-à-dire qu'un désir s'exprime par le symptôme, qui essaie de ruser pour, malgré tout, toucher et réaliser le désir qui est interdit. Et c'est en ça que lorsque ces jeunes développent ce type de symptômes obsessionnels, universels, pour le dire avec Freud, malgré tout, ils réalisent ce qui est socialement interdit. Quelque chose d'interdit se réalise via les ruses du symptôme. Lorsqu'ils utilisent la religion de cette façon-là, ils touchent quelque part à ce qu'ils s'étaient interdit à eux-mêmes.
Oui, et puis il y a cette immense fonction d'autorisation de la religion, mais qui alimenterait votre argument, Thierry Lamotte, de jouissance partagée, c'est ça, la jouissance partagée.
Alors, il y a une partie de ces candidats au djihad qui utilisaient la religion de cette façon-là, à la façon du symptôme, qui réalise toujours peu ou prou le désir interdit, ça c'est tous les symptômes qui fonctionnent comme ça, mais une autre partie de ces jeunes qui se sont engagés dans le djihad ne fonctionnait pas sur la base du symptôme, ils fonctionnaient sur une autre modalité d'adoption du discours. C'est eux qui me semblent les plus inquiétants, parce que c'est ceux qui, la plupart du temps...
Alors, est-ce que vous pouvez développer alors cette troisième catégorie
Alors, d'un côté, on a les névrosés, hein, qui adoptent comme solution quelque chose qui est inspiré par l'air du temps. Donc, le symptôme peut prendre la forme du djihad, par exemple, hein, avec le voile pour les jeunes filles, etc. Donc, on adopte une solution qui colle un petit peu à la culture dans laquelle on vit. Ça, beaucoup de névrosés le font. Des psychotiques le font aussi. Le psychotique, comme le schizophrène, peut très bien s'emparer des éléments culturels de son époque et les aménager autour d'un délire.
Et bricoler, c'est ça.
Bricoler un délire à partir de ça. Donc les névrosés et les psychotiques peuvent très bien construire une solution, mais une vraie solution qui peut les tenir en s'inspirant des éléments culturels de leur époque. Et il y a une autre part de la population qui, elle, pour le coup, n'a pas de symptômes manifestes. Dans la plupart des institutions que j'ai côtoyées, où j'ai travaillé, ce sont... Les pratiquants les plus rigoristes qui sont très surveillés, ceux qui ont la barbe, ceux qui ont la petite marque sur le front, parce qu'ils pratiquent énormément la prière. Donc eux, on les surveille énormément. Il me semble que ce ne sont pas les plus dangereux. Eux, ils domestiquent la pulsion en étant rigoristes dans leur approche de la religion. Mais cette autre part dont je vous parle, qui est beaucoup plus indécelable, parce qu'ils sont quasiment asymptomatiques, rien ne permet de comprendre qu'ils ont adopté quelque chose de ce discours. Eux, ce sont ceux qui, peut-être, seraient les plus susceptibles parce qu'ils ne sont pas nécessairement enracinés dans un sol. Ils ne sont même pas enracinés, par exemple, dans le fait d'être névrosés ou psychotiques. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas appui sur cette structure-là pour produire un symptôme ou pour produire un délire. Et c'est cette part-là de la population qui, me semble-t-il, est peut-être la plus propice à adopter ce type de discours.
Et la plus inquiétante aussi, parce que la moins décelable pour le travail de prévention qui est celui que doivent faire les institutions, notamment en prison, c'est assez inquiétant ce que vous dites là, Thierry Lamotte.
Oui, parce que si d'un côté on peut les repérer et quelque chose de ce qui a été adopté dans le discours sert malgré tout à ce que le sujet tienne dans le lien social, cet autre groupe dont on parle, qui est plutôt asymptomatique, cet autre groupe n'a justement pas réussi à bricoler une solution qui lui permette de tenir dans le lien social.
Est-ce que ça veut dire, Thierry Lamotte, qu'ils seront accessibles, plus accessibles que les autres à un discours rationnel, parce qu'il y a toutes les analyses de Gerald Bronner sur les biais cognitifs, etc., et qui sont extrêmement intéressants d'ailleurs, hein, comme perspective, qui n'est pas du tout freudienne, qui est tout à fait autre chose. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas de symptômes seraient plus sensibles à ce travail proprement rationnel?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est ceux qui rentreraient certainement dans le cadre de la théorie de Gerald Bronner sur la pensée extrême, où effectivement, eux...
En deux mots, la pensée extrême.
Gerald Bronner l'explique autour de quelques éléments qui me semblent assez importants. C'est-à-dire qu'il explique en gros que certaines personnes... gravissent pas à pas, de façon incrémentielle, un discours adopte petit à petit des éléments d'un discours sectaire ou islamiste, peu importe, qui l'amène à se couper de plus en plus de son environnement habituel. Ce qui manque malgré tout dans la théorie de Gerald Bronner, c'est des éléments pour distinguer qui s'engagera au point de rompre avec tout son environnement, jusqu'à la rupture, et de celui qui va adopter certains éléments du discours sans pour autant rompre complètement avec son environnement. Et peut-être que c'est là qu'on peut lire Gerald Bronner avec Hannah Arendt et introduire la dimension de la désolation. Justement, ce sont ces sujets qui ont perdu le sol.
Parce que, en fait, ces démarches ne sont pas contradictoires, Thierry Lamotte.
Non, elles ne sont pas contradictoires. Je pense que Gerald Bronner reprend et poursuit les travaux d'Hannah Arendt. Malgré tout, en un retour un peu réflexif, on peut se demander si chez Hannah Arendt, on ne trouve pas aussi des éléments pour penser, pour poursuivre la réflexion sur ces phénomènes.
Eh bien, merci beaucoup, Thierry Lamotte.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Thierry Lamotte, Éric Boisset, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous à demain pour continuer notre réflexion sur le djihadisme. Bonsoir.